RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Grand reportage avec Agnès Rougier. Agnès, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors depuis plusieurs années, on suit avec vous pour RFI les expéditions de Tara, un voilier scientifique dédié à l'étude des océans. Cette année, la goélette fait le tour du bassin méditerranéen pour y étudier la pollution par les déchets de matière plastique. Le bateau qui a pris la mer en mai dernier terminera son chemin, son périple, en décembre prochain. Et Agnès, ben vous êtes montée justement à bord cet été entre l'Albanie et la Grèce. Pêcher le plastique en Méditerranée, grand reportage, Agnès, que l'on retrouve dans un quart d'heure pour en parler.
Il y a du monde.
Ouais. Tac. Je sors les gros morceaux, ouais.
La provenance, c'est plutôt des emballages, non? On dirait
ah
comme
bah
ça.
Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Emballage, ouais. Sac poubelle. Aussi papier de cigarette, beaucoup, souvent. On a un insecte, là, ici. Oh là là, on a des... Ça, c'est type fil de pêche. On en a beaucoup, aussi. Et les fils de pêche abandonnés, les filets fantômes. On appelle ça comme ça.
Par rapport à ce que vous avez pu pêcher dans les dernières stations...
Je crois que c'est la pire, là.
Quelle drôle de pêche que celle pratiquée par Amanda et Lino, scientifiques à bord de Tara. Le 2 mai a débuté en mai dernier un tour de la Méditerranée pour analyser la pollution de l'eau par les plastiques. Car dans cette mer quasiment fermée, ceux qui tombent à l'eau à Marseille se retrouvent tôt ou tard sur la plage de Beyrouth ou l'inverse. Tara est un voilier engagé pour la planète et les précédentes expéditions étaient consacrées à l'étude du plancton. Mais aujourd'hui, le plastique est au cœur des préoccupations. Romain Troublé, secrétaire général de l'expédition.
Tara Méditerranée, c'est parce que on regarde le plastique avec Tara depuis 2011 et on en rencontre partout dans l'océan, au pôle Nord, en Antarctique, au Sud donc, dans le Pacifique, en Atlantique Nord, partout il y a du plastique. Et la Méditerranée est un bassin, finalement une mer quasi fermée, qui concentre un tiers du trafic mondial, 450 millions de personnes qui vivent autour de la Méditerranée, qui a doublé en 30 ans, 8% de la biodiversité, donc une grande partie de la biodiversité de la planète. Et cette Méditerranée subit beaucoup de stress, de par les populations, de par ses riverains, des cultures aussi différentes, tout ça est très complexe. Et donc la Méditerranée est un enjeu, est un terrain de jeu, il y a du monde, il y a beaucoup de stress. Et donc le plastique en Méditerranée, il y a un des impacts visibles qui peut prendre conscience un peu la majorité des gens et des populations à l'impact qu'on a sur l'écosystème.
Le plastique est un matériau récent qui date de la moitié du siècle dernier et dont la durée de vie est extrêmement longue. On trouve aujourd'hui, au fond des grandes fosses marines, des bouteilles en plastique datant des années 50. Gabi Gorski, directeur scientifique de l'expédition Tara Méditerranée et de l'Observatoire océanologique du CNRS à Villefranche-sur-Mer.
Tout plastique vient de l'homme. Il n'y a pas de plastique naturel sur la planète. D'ailleurs, je voudrais introduire le terme plastisphère. On parle d'atmosphère, on parle de biosphère. Plastisphère, c'est maintenant un terme que désignent les scientifiques de plastique qui entourent la Terre. Entourent la Terre sur sa surface. Il y a des débris dans l'espace autour de la Terre et il y a des débris sur la surface. Terre, mer. Donc ce plastique-là vient surtout de la pétrochimie et il est dégradable d'une façon désagréable. Ça veut dire qu'il se fragmente mais il ne perd pas sa nature et souvent sa nature est toxique.
Donc là c'est la remontée du filet manta. Ça y est, ça a commencé à remonter. Il était à quelle distance le filet manta, Amanda?
80 mètres.
Le truc il est là et moi je parle. Je n'ai pas vu qu'il était là. C'est comme ça que. Comme ça qu'on casse le câble.
Là, moi je pense que c'est le fait que quand on le sort, il n'y a qu'un côté qui est tiré. C'est ça.
Ouais, c'est normal.
C'est ça, parce qu'il est asymétrique. Mais je pense que c'est ça qui a fait que ça.
Amanda? Non, avant quand on montait le manta, on arrêtait le moteur hein, déjà. On n'avançait pas. Donc il traînait pas derrière. On coupe et après on le relève le truc.
Nous sommes sur le pont arrière de Tara. François Aura, marin, et Amanda Elino, océanographe du laboratoire de Villefranche-sur-Mer, sont en train de remonter un filet, l'outil principal de la pêche au plastique. Amanda Elino.
Les stations se font de préférence par temps calme pour le filet manta.
Le filet manta qui est un type de filet.
Oui, qui est un type de filet de surface en fait. On l'appelle manta par référence avec la raie manta parce qu'il a deux ailes qui vont lui permettre de rester à la surface et de prélever que les 20 premiers centimètres de la surface de l'eau. Et les plastiques en fait ont tendance à flotter en fait par temps calme hein, quand la mer ressemble à un lac. Donc on veut vraiment échantiller les tout premiers centimètres de la surface. C'est pour ça qu'on utilise le manta. Il a une maille de 330 microns, donc ça va nous permettre de récolter des fragments de plastique visibles à l'œil nu, ainsi que du plancton.
Les prélèvements vont servir à connaître et comprendre le comportement de ces différents plastiques, où et comment ils s'accumulent. Mais ce que l'on sait déjà, c'est qu'il y en a dans tout le bassin méditerranéen. François Galgani, océanographe à l'Ifremer, responsable scientifique à bord de Tara.
Absolument, on commence à avoir des densités moyennes, donc on sait qu'on a de l'ordre de 115 000 microparticules par kilomètre carré, ce qui représente des quantités assez importantes à l'échelle du bassin.
Quand vous dites microparticules, on peut se faire une idée, est-ce qu'on les voit à l'œil nu ?
Alors, si, on en voit quelques-unes, on les voit pas toutes parce qu'il y en a qui sont trop petites, si vous voulez, mais l'ensemble des microparticules, ça représente des objets très divers, des sources très diverses, des constituants très divers et des couleurs très diverses.
Quelle taille font-ils, ces fragments ?
Alors, en fait, c'est des microparticules qui vont de 0 à 5 mm, globalement.
Les origines, donc, sont diverses. On peut avoir une petite idée de la répartition. Est-ce qu'il y a une majorité qui vient d'une source en particulier, François Galgani ?
Alors en Méditerranée, on sait qu'à peu près 80% viennent de la terre, même si le trafic maritime est très important, et le plus souvent des rivières, donc les grands fleuves bien évidemment, mais également les petites rivières. Ce qu'il faut noter également, c'est la présence de décharges sauvages sur l'ensemble du littoral méditerranéen, des sources très diffuses avec une population liée au tourisme saisonnière, donc qui est responsable d'apports, si vous voulez, massifs. Et donc tout ça, ça fait des sources très complexes, évidemment, des mesures difficiles à prendre.
Alors là, j'ai noté l'heure à laquelle le filet a été mis à l'eau, ainsi que le point GPS, latitude, longitude. Et ce chiffre ici, c'est le numéro qui est inscrit sur le volume compteur qui est accroché au bongo pour en fait savoir quel va être le volume d'eau de mer filtrée par le filet après une heure de trait. Voilà, il y a un collecteur qui va partir pour un type d'analyse et l'autre collecteur qui va partir pour une autre analyse. Voilà. On va compter le plastique qu'on a dans les échantillons, mais on va aussi analyser toutes les espèces qui vont coloniser ces microplastiques et aussi s'intéresser à toutes les espèces qui vivent à côté du microplastique.
Pour caractériser le milieu et l'ensemble de l'écosystème avec plastique intégré.
Exactement, quoi. Ouais, ouais. Maintenant, finalement, on le prend en compte comme si c'était une autre espèce, quoi. C'est fou.
Après 3 mois de navigation et plus de 100 prélèvements d'eau de mer, un bilan d'étape avec Amanda Elino.
Pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai trouvé du plastique dans tous mes filets manta. Hein, donc le plastique est présent partout, en plus ou moins grande quantité, mais il est présent sur toutes les régions qu'on a parcourues. Et après, on a vu clairement des zones plus riches que d'autres en microplastique. Surtout là, sur le passage Grèce, canal de Corinthe, Athènes, on voit qu'il y a d'énormes différences entre les filets.
Ouais, ouais, beaucoup plus qu'au sud de la France ou de l'Italie.
Ouais, c'est plus différencié, j'ai trouvé moins homogène. Mais en fait, c'est complètement lié à la géographie aussi. Cet espace qui a, avant de passer le canal de Corinthe d'ouest en est, se forme un cul-de-sac. Donc c'est un peu une petite mer fermée, hein, parce qu'il y a un détroit à l'ouest, un canal à l'est. Donc du coup, toutes ces différences géographiques, on les ressent après nous derrière sur les filets. Que ce soit au niveau plastique ou au niveau zooplancton d'ailleurs, on les ressent.
Est-ce qu'il y a des différences de qualité dans le plastique que vous avez ramassé pendant ce trajet ?
Là, j'ai pu tout voir. Par exemple, là, en Grèce, devant Athènes, on a vu beaucoup, beaucoup de billes de polystyrène. On les reconnaît bien parce que ça fait vraiment des billes blanches collées les unes aux autres. Donc ça, il y en avait beaucoup. Après, on avait beaucoup de macro-déchets, de gros morceaux de plastique quand même, surtout transparents. Et après, oui, on retrouve tous les plastiques de couleur, noir, orange, bleu, un arc-en-ciel de plastique. Mais oui, on voit, il y a des différents types de plastique de suite.
Et donc, sur ce trajet de Grèce en face d'Athènes, là, il y avait tout le monde, en fait.
Ah là, Athènes, c'était l'Eldorado du plastique. Il s'y sentait bien.
Amanda et Lino, nous sommes ici dans le laboratoire qui est à l'intérieur de Tara. Et tous les jours, plusieurs fois par jour, après les stations, les prélèvements, vous disparaissez ici. Voilà, donc c'est un endroit qui semble un peu mystérieux. Il y a pas mal d'ordinateurs, d'écrans, de bouteilles, de tuyaux, de filtres et des ordinateurs avec toutes sortes de jolis graphiques. Alors qu'est-ce que vous venez faire ici après les prélèvements, Amanda ?
Alors ici, on vient pour préparer l'échantillon pour analyse ultérieure en laboratoire. Donc par exemple, sur nos prélèvements d'eau de mer, on va filtrer l'eau avec cette pompe en passant l'eau sur des filtres à toute petite maille.
Alors, on peut décrire aussi, c'est que l'eau est dans une bouteille, en fait, une grosse bouteille qui est posée verticalement.
C'est une bouteille Nalgene. C'est important, la matière de tout ce qu'on utilise, c'est très important pour ne pas contaminer l'eau.
Ça représente un travail de combien de temps à chaque fois, ça, après les prélèvements ?
Ça peut être plus ou moins long selon le protocole de derrière. Je dirais qu'il y en a pour aller une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc c'est pour ça qu'on ne perd pas de temps, en fait. Pendant qu'on filtre ici, on envoie un autre filet derrière. On fait en même temps, comme ça, on ne perd pas de temps.
Mais quels sont les risques associés à la présence de ces microplastiques en Méditerranée et en mer en général ? François Galgani.
Donc pour les microplastiques, le risque le plus important, c'est probablement le transport d'espèces. En fait, des centaines de milliards de microparticules à l'échelle de la Méditerranée, c'est autant de vecteurs de transport d'espèces qui se seraient fixés dessus. Si vous voulez, les espèces voyagent d'une zone à l'autre, depuis toujours en mer. Pendant des millions d'années, ça a été sur des objets naturels, des branches par exemple. Et puis petit à petit, les bateaux donc, ont commencé à perturber un petit peu le transport de ces espèces. Et puis depuis peu, la présence de ces grandes quantités de microparticules favorise largement leur dispersion. Disons que ça va partout.
Suite au dernier tsunami qui a frappé le Japon, on a retrouvé au Canada 54 espèces étrangères sur seulement 4 mètres de littoral. Et les conséquences sont difficiles à prévoir. Colalgue tropicale Colerpa taxifolia, appelée aussi algue tueuse, est arrivée par accident en Méditerranée en 1984. Elle a éliminé la concurrence et conquis tout le bassin jusqu'en 2011, année où elle a commencé à régresser sans que l'on sache pourquoi. François Galgani, là, on vient de voir un sac plastique passer dans l'eau devant nous. Typiquement, ce genre de déchets entiers, en fait, pas réduits en fragments, peut avoir des conséquences sur la faune.
Oui, on connaît les étranglements dans les déchets qui flottent ou bien dans les filets abandonnés, et puis surtout l'ingestion. L'ingestion par les tortues, par exemple, c'est très connu en Méditerranée, dans certaines régions, jusqu'à 70% de certaines espèces contiennent des déchets. Il y a également des poissons qui viennent en surface. Involontairement, ils avalent des microplastiques. Et puis, il peut y avoir d'autres espèces comme les oiseaux. Alors, c'est plutôt des microplastiques flottants. Donc, les oiseaux les prennent pour des œufs ou simplement sont attirés par la couleur et les avalent. Et certains les gardent parce que l'espèce veut que ça les aide à digérer, si vous voulez. Et donc, comme c'est pratique, ils les gardent. Il n'y a pas de régurgitation comme dans d'autres espèces. Et donc, ils peuvent être très affectés avec des transferts de polluants, ça a été montré. Ou bien, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à la mort. Mais enfin, c'est difficile de montrer que c'est directement le plastique qui est responsable de la mort des oiseaux.
Mais les tortues, pourquoi est-ce qu'elles mangent des sacs plastiques,
hein ? En fait, contrairement aux dauphins qui, eux, font la différence entre des sacs plastiques ou des méduses, par exemple, les tortues, elles, sont incapables de discernement et donc elles avalent tout ce qu'elles voient en prenant des sacs plastiques pour des méduses. Et donc, c'est la raison pour laquelle elles ont des taux d'ingestion beaucoup plus élevés que dans le cas des mammifères.
Et alors, dans leur cas, du coup, ça remplit quand même leur estomac, donc finalement, ça remplace la nourriture ?
Alors c'est ça en fait, donc c'est sans fin, parce que d'abord elles sont probablement pas rassasiées, et donc elles continuent, elles en avalent beaucoup, et dans des zones où il y a beaucoup de plastique, c'est le cas en Méditerranée, bien évidemment, forcément, elles sont très affectées. Quoi.
Et ça se termine comment finalement alors ?
Alors ben, normalement, les plastiques doivent être excrétés, si vous voulez, c'est un petit peu comme un enfant qui avalerait par mégarde un morceau de plastique, vous savez, un bouchon de stylo ou des choses comme ça. Normalement on le garde pas, mais le problème c'est que quand on en avale beaucoup, ben, il peut y avoir des quantités phénoménales. Je crois qu'on a une tortue, on a montré que ça allait jusqu'à 2,5 kg de plastique dans l'estomac. 2,5 kg, si vous voulez, extrapoler à l'homme, vous imaginez par exemple un humain qui aurait 2 kg de plastique dans l'estomac, c'est invraisemblable quoi.
Alors, pour arrêter cette invasion de plastique, nous devrions commencer par changer nos comportements, ne plus jeter nos emballages n'importe où, recycler. Mais le plastique lui-même ne pourrait-il pas changer? On commence à voir par-ci par-là des plastiques biodégradables, fabriqués par exemple avec du maïs. Gabi Gorski, directeur scientifique de Tara Expédition.
La solution de faire de sorte de produire du biodégradable véritablement ou des produits naturels, on sait que ça existe. Maintenant, c'est à nous tous, ça veut dire à la société, qui est surtout composée, dans ce cas-là, des décideurs, des industriels, être persuadés qu'on peut créer des emplois, qu'on peut créer des richesses et qu'on peut ainsi modifier la nature des choses, parce qu'il s'agit de nos enfants et de leurs enfants.
Les amphores découvertes au fond des mers nous racontent l'histoire de l'Antiquité. Nos descendants liront peut-être la nôtre dans les bouteilles en plastique. Pêcher le plastique en Méditerranée, un grand reportage d'Agnès Rougier, réalisé par Marc Minatel.
Agnès, heureux de vous retrouver après ce joli voyage en... Oh, joli, je ne suis pas sûr, en Méditerranée. Cette expédition scientifique est aujourd'hui consacrée à étudier la pollution par les plastiques. Mais comment se fait-il que la matière plastique, puisqu'on en parle, qui est somme toute fabriquée à base de combustibles fossiles, comme le pétrole, constitue aujourd'hui une pollution majeure des mers en général et de la Méditerranée en particulier?
Oui Laurent, effectivement, la matière plastique est majoritairement issue de la pétrochimie et c'est un matériau relativement récent puisque son histoire débute vraiment au début du XXe siècle. Alors la matière plastique industrielle est composée d'une longue chaîne d'atomes de carbone et d'hydrogène. Elle est fabriquée par un processus qu'on appelle la polymérisation et le résultat s'appelle un polymère. À ce polymère, on ajoute des additifs. Et suivant le degré de polymérisation et les additifs que l'on choisit, le plastique aura des propriétés complètement différentes. Alors il peut être rigide, élastique, supporter plus ou moins bien la chaleur, la traction, être très résistant au frottement, bref. Toutes ces qualités font que la matière plastique est utilisée dans tous les secteurs de l'industrie et de la vie quotidienne. Mais du coup, par voie de conséquence, les déchets de plastique sont eux aussi extrêmement résistants et certains d'entre eux vont simplement défier le temps.
Donc Agnès, globalement, le bilan écologique du plastique semble, disons-le tout net, plutôt négatif.
Oui, c'est clair. Prenons alors étape par étape. D'abord, les combustibles fossiles utilisés pour fabriquer les matières plastiques sont des sources très importantes de gaz à effet de serre. Ensuite, la plupart des industriels fabriquent le plastique avec des petites billes appelées larmes de sirène. C'est très joli, mais ces billes sont transportées par bateau dans des conteneurs. À chaque fois qu'un conteneur tombe d'un navire, ce sont des millions de larmes de sirène qui se retrouvent à l'eau. Et puis, les substances chimiques ajoutées au plastique pour sa fabrication, comme le bisphénol A ou les phtalates qu'on trouve dans les plastiques alimentaires, justement, sont au premier rang des accusés pour le déclenchement de maladies liées à l'appareil génital, du diabète ou encore des maladies cardiovasculaires. C'est sans compter que la combustion du plastique, qui est également très polluante, et peut libérer des substances extrêmement toxiques.
Alors, que faire avec tous ces déchets? Est-ce qu'il faut les recycler?
Oui, ça, c'est possible, mais c'est un processus relativement long et coûteux si l'on veut un matériau vraiment pur en fin de cycle. Et puis, tous les plastiques ne peuvent pas être réutilisés dans tous les domaines. Par exemple, le PVC, polychlorure de vinyle, est potentiellement dangereux pour l'usage alimentaire.
Est-ce qu'il existe déjà des plastiques biodégradables?
Oui, on en voit. Un plastique qui est biodégradable quand il peut être décomposé par son exposition à l'air, à la lumière ou encore par des bactéries. Et ce plastique peut aussi être issu de la pétrochimie. Mais on peut fabriquer des matières plastiques à partir de matériaux renouvelables, comme l'amidon du maïs, la cellulose du bois ou encore le fer fabriqué par des bactéries. On dit alors que ces plastiques sont biosourcés. L'idéal serait donc que les plastiques soient à la fois biosourcés et biodégradables. Et ce n'est pas encore le cas.
Ce sera le mot de la fin. Reportage à réécouter dans son intégralité sur la longueur, rfi.fr. Agnès Rougier, merci beaucoup. Bonne journée.